L'avenir est dans nos poubelles. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, jeudi 16 juin 2022.
L'avenir est-il dans nos poubelles? En tout cas, le débat est à éthique et à Web Radio Édition parce que vous le voyez, ce sujet est concret, théorique, intellectuel, inépuisable et économique et concerne les entreprises. Bah justement, une entreprise pour cette séquence de conclusion, c'est le groupe Paprec Group avec Lucie Muniesa qui le représente. Vous êtes directrice du développement durable et des affaires institutionnelles. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Et en face de vous, Madame Corinne Lepage, qu'on ne présente plus mais quand même, ancienne ministre de l'Environnement, avocate. Corinne Lepage, bienvenue.
Merci
à vous. On revient vers vous dans un instant pour la conclusion. Mais on rappelle aux téléspectateurs ce qu'est Paprec, un acteur incontournable de la gestion globale des déchets. Et puis vous allez dire, si vous voulez bien, ce que vous retenez de ce que vous avez entendu et votre point de vue. Alors, c'est combien de tonnes collectées Paprec? Qu'est-ce que ça représente? On le rappelle pour les gens qui nous écoutent.
Le groupe Paprec, effectivement, donc, c'est le leader français du recyclage des déchets. Donc on a un groupe français, on est extrêmement fiers de l'être. Et on est maintenant le troisième acteur de la valorisation énergétique à partir des déchets. C'est un groupe qui est parti de 45 personnes, 3 millions de chiffres d'affaires, à La Courneuve, en région parisienne, sur une idée très visionnaire de son président fondateur Jean-Luc Petit-Huguenin, qu'au lieu d'éliminer ou de brûler les déchets, on pouvait les valoriser. Quand on dit ça aujourd'hui, ça paraît assez naturel. Dans le milieu des années 90, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, c'est 2,5 milliards de chiffres d'affaires. C'est 12 500
collaborateurs
et c'est 16 millions de tonnes de déchets que nous traitons.
Vous avez beaucoup de boulot. Quel est votre rôle précisément? Parce que on le voit, la gestion des déchets au carrefour de plein de missions pour que la société aille mieux et puis pour que cette société de consommation puisse réutiliser tout ce qui sort là, de la production. Oui.
Alors bah, nous on est dans la filière déchets. Nous on est l'industriel qui a la connaissance, les savoir-faire, l'expertise et la technologie pour traiter les déchets, c'est-à-dire valoriser au maximum la matière qui est issue de ces déchets, à la fois le papier, le bois, le carton, le plastique, les déchets du bâtiment, etc. On intervient sur l'ensemble des chaînes de déchets. Et donc nous, ce qu'on apporte, notre création de valeur, c'est collecte, tri, valorisation pour pouvoir réinjecter cette matière première en matière première secondaire.
On peut parler de souveraineté sur ces sujets-là.
Tout à fait, puisque dans le contexte à la fois de la crise sanitaire et aujourd'hui de cette dramatique guerre en Ukraine, on voit bien qu'il y a des tensions majeures de par le monde sur l'accès aux ressources premières, aux ressources naturelles, et donc pouvoir réenclencher ce cercle vertueux de réutiliser ces matières, donc ça veut dire de bien les traiter, de bien les valoriser pour pouvoir les réinjecter. C'est un enjeu de souveraineté industrielle pour la France et pour l'Europe. Et c'est extrêmement important de miser là-dessus.
Madame Corinne Lepage, ça fait longtemps que vous parlez de ces sujets, c'est pas une découverte pour vous. Sauf que de souveraineté, on en parle de plus en plus à la lumière de la crise sanitaire. Pour vous, les choses avancent quand même? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des chantiers énormes devant nous, comme si rien n'avait été fait parfois.
Non, il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Et c'est vrai que l'exemple du groupe Paprec est un exemple tout à fait intéressant. On pourrait presque dire qu'il y a eu au cours des 50 dernières années, 40, une histoire, une saga des déchets. Bon, à un moment, c'était toute incinération, ce qui avait énormément d'inconvénients, à la fois d'ordre sanitaire, et c'était stupide, puisqu'on brûlait quelque chose qu'on aurait pu réutiliser. Ensuite, il y a eu le recyclage, c'est-à-dire qu'on reprend un produit, le papier par exemple, et on le réutilise, c'est très bien. Ensuite, il y a eu le réusage, qui est autre chose, qui est une étape supplémentaire. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans le déchet, non pas la totalité, mais une partie qui va permettre de faire autre chose. Et maintenant, on se rend compte, et je pense que pour moi, c'est le plus important, qu'on est en face d'une mine de matières premières secondaires. Il faut comprendre que la France, on a des mines, pas beaucoup, mais un peu, mais personne, très franchement, n'a très envie de les rouvrir, en tout cas ceux qui vivent à côté. Donc, à mon sens, c'est pas demain matin qu'on va rouvrir des mines. Et on n'a pas de lithium, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, on n'a pas de terres rares, etc. Oui, mais on les a dans nos poubelles. Et donc là, l'importance qui s'attache aujourd'hui à être en capacité, et il y a des entreprises qui le font, je les connais, je travaille avec un certain nombre d'entre elles, c'est-à-dire qui vont aller chercher dans des cendres, dans des déchets dont on a l'impression qu'on ne peut plus faire grand-chose, du lithium par exemple, pour faire des batteries, qui vont aller retrouver au millionième de grammes de l'or, de l'argent, du cuivre, qui vaut quand même très très cher aujourd'hui, etc. C'est une manière de nous constituer un gisement absolument formidable de matières premières secondaires et de nous permettre de développer nos énergies renouvelables, de nous permettre de développer les batteries, de nous permettre de développer toute une série d'activités économiques. Donc c'est vraiment excessivement important, et c'est comme ça qu'il faut voir le sujet. Il faut voir vraiment le déchet. Bon, quand on a déjà traité entre ce qui est organique et ce qui ne l'est pas, ce qui est quand même la base, parce que l'organique, on peut en faire du compost et on peut l'utiliser à des fins agricoles, mais surtout le reste, d'être en capacité de faire du recyclage, de la réutilisation et de la recherche de matières premières secondaires.
Alors, chez Paprec, c'est une véritable filière. On parle, bien sûr, de ce qu'il faut bien faire pour la planète, mais bon, c'est un business qui crée de l'emploi. On peut en parler aussi, hein.
Tout à fait. Alors, en plus d'avoir un bénéfice, je dirais, environnemental et économique, bien sûr, c'est 12 500 personnes, c'est des emplois en France, non délocalisables, c'est des emplois de proximité dans les territoires. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, puisqu'on est quand même sur des activités qui sont profondément ancrées, qui répondent à des besoins locaux et avec des déclinaisons de projets et d'industries qui répondent très précisément à des besoins locaux. Vous parliez de la valorisation organique à partir des biodéchets, hein. C'est quelque chose, c'est en plus de la valorisation matière dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est bien sûr aussi une filière d'avenir dans une période où on reparle de souveraineté alimentaire, où on voit bien que la guerre en Ukraine crée aussi des tensions pour les agriculteurs pour s'approvisionner en engrais, pouvoir dans un geste cercle vertueux de retour à la terre produire des fertilisants agricoles à partir de nos biodéchets. Je crois que c'est extrêmement positif et extrêmement vertueux pour tout le monde.
Est-ce que, Madame Lepage, l'économie circulaire, hein, ce modèle dans lequel rien ne se perd, tout se transforme, même si tout le monde dit c'est très très bien, il n'est pas assez pratiqué tout simplement?
On commence, hein, la loi AGEC, elle a 2 ans ou 3 ans, les décrets d'application sortent lentement, disons, mais c'est une véritable révolution quand même. Il faut bien comprendre qu'on raisonne tout à fait différemment. Et je voudrais vous en donner un exemple un peu différent, qui est celui des déchets du bâtiment. Bon. Les déchets du bâtiment, on sait tous ce que c'est des déchets inertes, c'est des bouts de ciment, c'est de la ferraille, etc. Aujourd'hui, on est dans une conception révolutionnaire du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va construire en se posant la question de savoir ce qu'on va faire en fin de vie du bâtiment. C'est-à-dire, comment est-ce que chaque élément qui va aller dans ce bâtiment, que ce soit du verre pour les vitres, que ce soit les toits, que ce soit les murs, que ce soit les fondations, que ce soit du bois, de l'acier, tout ce que vous voudrez, qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie? Et comment est-ce que ce bâtiment pourrait être démoli pour être quelque part reconstruit? Donc, si vous voulez, c'est une révolution complète dans la conception même de ce qu'est un bâtiment. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais imaginé ça. On construisait, puis on démolissait, et on avait les déchets du bâtiment. Donc, je donne cet exemple parce qu'il me paraît particulièrement éclairant de la transformation qu'induit l'économie circulaire. C'est vraiment une autre philosophie avec ce que l'on appelle la sortie du statut de déchet. C'est-à-dire le fait que ce qui était un déchet, parce qu'il va pouvoir être réutilisé et qu'il ne présente pas d'inconvénients sanitaires et environnementaux, bien entendu, parce qu'il ne faut pas utiliser des produits qui rendent les gens malades, c'est une évidence, sort du statut de déchet avec toutes les contraintes qui s'y attachent pour devenir une matière première, je ne dirais pas comme une autre, mais presque.
J'aimerais qu'on parle des décharges, hein, parce que parfois on ne sait pas où mettre les déchets. Il y a eu quelques cas, des épisodes vraiment très malheureux. On voit sur la commune de Villejuif, il y avait dans le parc des Hautes-Bruyères une décharge à ciel ouvert de 50 000 mètres cubes. Je crois qu'à une levage, vous avez porté le fer et vous dites même que vous voulez Éliminer les décharges. Hein.
Éliminer les décharges, il suffit, ma vie, ce qui reste de ma vie n'y suffirait pas. Mais l'histoire de Villejuif est un très bon exemple parce que c'était un terrain qui appartient à l'État, qui ne s'impose à lui rien du tout, alors que ce terrain appartiendrait à n'importe quelle personne privée. Le préfet l'aurait depuis belle lurette mise en demeure de nettoyer son site, quoi. Et donc, c'est à proximité d'une école, c'est à côté d'un centre bien connu, médical. C'est pas possible de laisser les choses en état. Et donc, ça traîne. C'est absolument pas possible. Donc, oui. Et les décharges, il faut lutter contre, parce que c'est une forme de concurrence tout à fait déloyale pour tous ceux qui sont corrects et qui récupèrent les déchets et les retraites. C'est tout à fait inacceptable. Et en plus, il faut quand même dire, appeler un chat, très souvent, c'est dans les mains des mafieux. Hein.
C'est vrai. Oui. Alors, dites-moi, Lucie, musée de Pré-Groupe, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux trier à la source, pour inciter les industriels du déchet à travailler dans le bon sens?
Alors, nous, on pense qu'il y a plusieurs axes pour pouvoir poursuivre. Hein, et je pense effectivement tout ce qu'on va pouvoir tous faire à notre niveau. Et je crois que ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un chantier qui est collectif et qui doit engager les entreprises, qui doivent en engager les ménages, etc. D'abord, c'est mieux éco-concevoir. C'est pouvoir, au moment où je construis mon produit, mon emballage, je réfléchis, j'ai une analyse de cycle de vie, est-ce que ça va devenir. C'est une idée extrêmement, extrêmement simple et basique. Les précédents panélistes ont décrit ça. Vaut mieux une bouteille en plastique que j'arrive à recycler à 100% plutôt qu'un mélange de papier-carton où je me donne bonne conscience, mais in fine, j'aurai un taux de recyclage qui sera moins bon parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Deuxièmement, il faut trier, il faut mieux trier. Pour ça, il faut expliquer de façon plus simple aux citoyens de, je dirais, 0 à 99 ans, quelles sont les règles de tri. Donc l'extension de la consigne de tri, notamment sur les emballages plastiques, généralisée avec la même consigne de tri sur l'ensemble du territoire français. Je pense que ça va contribuer à simplifier ces consignes-là. Et derrière, c'est quoi? Ça veut dire que c'est mieux, c'est plus de matière qui est mieux collectée et que nous, derrière, on peut mieux valoriser.
Alors, une question basique de consommatrice débile.
Je précise, c'est Sophie de Menton, bonne en éthique, qui parle. Pardon, je vais lui donner la parole, mais elle réagit.
J'ai réagi parce que j'ai, mais vraiment, en consommatrice basique et nulle, j'en suis sûre, je trie avec une application rare, mon carton d'un côté, la bouteille, en me disant est-ce que je mets la bouteille avec le carton, etc. On fait ça très bien, on le descend, parfait. Et de temps en temps, on a la sensation qu'il y a un grand camion qui passe et que on met tout dedans. Sensation qu'on peut avoir. Les tris sont tout à fait différents selon les régions. Quand je suis en Vendée, j'ai droit une fois par semaine d'aller dans un endroit, mais la poubelle ne passera que tous les mardis et on peut pas trier, il faut le mettre. Donc c'est encore extrêmement compliqué. Et par rapport à ça, juste aussi des réflexions de ceux qui nous écoutent basiques, le jardin du Luxembourg à Paris, qui d'ailleurs est à côté du Sénat, j'ai rencontré des jardiniers au bord des larmes, avec un espèce de déchet partout, des papiers gras, des canettes de Coca-Cola, puisqu'on vient d'en parler. Et je les ai interrogés, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, on m'a dit, on nous fait enlever les poubelles, parce que les corbeilles, parce qu'on a décidé d'éduquer les citoyens, et qu'on doit repartir chez soi avec ces déchets. C'est pour apprendre aux gens à ne pas laisser des déchets à repartir. Moyennant quoi, vous avez évidemment... ça part dans tous les sens, c'est absurde. Donc, c'est compliqué, la responsabilité individuelle, la responsabilité des entreprises et la responsabilité de ceux qui nous dirigent.
Oui, Corinne Lepage, on est dans le quotidien, mais
je
l'État...
Je ne suis personne, hein, je précise.
Mais l'État a fort à faire, c'est vrai. Hein, il y a des associations, il y a des instances, elles étaient dans les tables rondes. Mais l'État, il ne fait pas que réglementer. Parfois, on a l'impression qu'il va juste sortir une loi et puis on voit ce qui se passe. Mais on attend de lui ce suivi. On l'a vu sur le protocole sanitaire, hein, il y a eu à critiquer. Mais on avait partout des affichages, voilà comment il faut faire. Qu'est-ce, non,
C'est-à-dire que le sujet des déchets, ce n'est pas un sujet uniquement État. C'est aussi un sujet collectivité locale. Hein. Donc il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a plusieurs niveaux. Échelon. Et au niveau du concret, du concreto concret, des poubelles dont Sophie parlait il y a un instant, c'est local, c'est pas l'État qui va décider qu'on met des poubelles au Luxembourg ou pas.
C'est la ville de Paris.
Je pense que c'est la ville de Paris, oui, je suppose. suppose que c'est là que ça se passe. Donc déjà, il faut qu'il y ait une harmonisation.
Ça me fait penser qu'il y a beaucoup de rats à Paris. Donc
à
intégrer dans la dimension de gestion des déchets, certainement.
Bon, voilà. Donc c'est pas l'État, effectivement, il va réglementer, il va prendre des décrets qui sont pas toujours très bien fichus, qui sortent pas toujours quand il faut, qui sortent ou qui ne sortent pas, qui sont pratiques ou pas pratiques. Nous avons aussi, puisqu'on parle de l'État, un niveau supérieur qui est le niveau européen. Tout ça part quand même d'un système européen qui a mis en place ce qu'on appelle la hiérarchie des déchets, des traitements de déchets.
Pouvez-vous rapprocher du micro, Madame la Ministre,
s'il vous plaît. Merci. La hiérarchie du traitement de déchets, étant entendu que l'incinération, c'est le dernier niveau. C'est ce qu'on fait quand on ne sait vraiment plus quoi faire.
Et c'est vrai, il y a certains secteurs où on arrive à harmoniser ce qui se passe en Europe. On produit tous des déchets, on consomme tous des téléphones, on a les mêmes choses à recycler qu'on soit en Allemagne, en Italie, enfin grosso modo. Pourquoi on n'aurait pas les mêmes pratiques ?
Ah ben le D3E, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est-à-dire les déchets électriques, électroniques et le troisième E, je ne sais plus ce que c'est. En principe, c'est une réglementation communautaire, comme les piles, par exemple. C'est des réglementations communautaires. Ensuite, vous avez des réglementations sectorielles. Mais vous prenez l'exemple du digital. C'est un excellent exemple. Nous avons une pratique du digital qui va changer. Je veux dire, on ne peut pas continuer, compte tenu de l'impact carboné du digital. Je rappelle quand même que le digital, au niveau planétaire, a dépassé depuis un moment l'aviation civile. Parce qu'on pleure après les avions, mais l'usage cumulé du digital sur la planète, on est à 5%, on va être à 8%. Donc on fait des efforts délirants pour réduire nos émissions, et d'un autre côté, sur le digital, c'est open bar. Ça, c'est pas possible.
Petite parenthèse sur les jeunes qui nous donnent des leçons, et on les remercie, parce qu'ils sont très concernés par ça. Et je ne suis pas sûre qu'ils agissent complètement de la même façon qu'ils pensent, sur la consommation digitale en particulier.
Alors, et sur la consommation digitale, la question du matériel, c'est 75% de la consommation globale. C'est-à-dire qu'il y a 25% à prendre dans l'usage. On ne fait pas du streaming dans un ascenseur ou dans un train, parce que ça bouffe une quantité d'énergie folle. Mais par contre, on ne change pas non plus son téléphone. Désolé pour les producteurs de téléphones, mais on ne change pas son téléphone tous les ans. Et d'ailleurs, je vois avec plaisir que certains fabricants aujourd'hui proposent de réparer, de remettre en état, etc. Et c'est évidemment ce qu'il faut faire. Ils gagneront leur vie en offrant de la prestation de service. Et je pense que dans quelques années, on n'achètera plus de téléphone ou d'ordinateur. On achètera la prestation de service, téléphone ou ordinateur. C'est-à-dire qu'on va aller vers ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité.
Sans compter l'obsolescence, qui est quelque chose de dramatique, l'obsolescence programmée, qu'il faut absolument faire cesser. Et ça, c'est... Il devrait y avoir des contrôles là-dessus. Et je pense que c'est aux entrepreneurs de s'auto-réguler, y compris sur l'obsolescence. Ça doit être compliqué, parce que d'un point de vue marketing, il y a des entreprises qui ont décidé ça, il y a des années. Et je pense, et j'insiste beaucoup là-dessus, je crois, moi, dans l'auto-régulation, dans la conscience professionnelle des entreprises, qu'on donne des indications, mais... Il faut stopper l'écologie positive, la taxe qui va supposer éviter un problème, 4 taxes dans le dernier mois sur certains produits, c'est juste pas possible.
Lucie Muniesa, c'est vrai qu'on a un sujet qui peut tourner de manière très très négative, c'est de la contrainte, c'est de l'injonction, on ne sait pas faire, c'est compliqué, alors que vous dites que c'est les déchets, c'est la première matière première du 21e siècle. Il devrait être juste positif et enthousiasmé ce sujet-là.
Tout à fait. Donc c'est vraiment toute la que ce soit du papier, du carton, aux biodéchets. On parlait du lithium, des métaux rares, etc. Le groupe APREC travaille sur un projet avec des industriels, avec des laboratoires de recherche pour essayer d'extraire et recycler les métaux rares qui sont dans les batteries électriques. Hein, à partir de 2035 et au-delà, on va se retrouver avec l'augmentation de la voiture électrique. On va se retrouver avec des amoncellements de batteries en fin de vie qui va falloir recycler. Or, ces métaux rares. Il ne nous aura pas échappé qu'on n'a pas de, Madame la Ministre l'a dit, on n'a pas de mines en France qui sont capables de produire
de ces... lithium en France, quand même.
De ces métaux rares, mais le nickel, le cobalt, etc., sans compter tous les autres métaux rares. Donc, l'idée, c'est qu'on commence aujourd'hui, dans le cadre d'un projet partenarial, parce que oui, le recyclage, c'est aussi une industrie hautement technologique, oui. Et c'est beaucoup d'innovation. Et ça, je pense que le groupe APREC a beaucoup œuvré pour essayer de changer cette image, et on a énormément investi. Un centre de tri aujourd'hui, et je vous invite, mesdames, et j'invite tous celles et ceux qui nous suivent à venir visiter nos centres de tri. C'est de la robotique, c'est de l'intelligence artificielle embarquée pour...
Elle fait quoi l'intelligence artificielle? C'est intéressant. Elle identifie
en fonction des images qui ont été rentrées dans la machine. Une bouteille, par exemple, en plastique, dans quel flux je vais pouvoir la mettre, soit la recycler parce qu'elle sera relativement pure dans sa composition, ou pas la recycler. Donc typiquement, les centres de tri aujourd'hui, c'est ça. Une unité, un centre de tri aujourd'hui, complètement automatisé, c'est un investissement de 40 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est vraiment de la haute technologie et de la haute valeur ajoutée. Et je me permets de rajouter que par ailleurs, ça améliore les conditions de travail des personnels, de nos collaborateurs sur les sites, puisqu'on peut les positionner justement soit en entrée pour faire du pré-tri, soit en bout de chaîne de tri pour faire du sur-tri. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Je voudrais vraiment dire un mot, parce que quand on parle de tout ça, à la limite, on est déprimé. Moi, quand on commence à me parler de la planète, de ce qui va mal, de ses problèmes, et je trouve que c'est tellement optimiste ce qui s'est dit ce matin. C'est tellement extraordinaire. Je veux dire, qui sait que PAPREC, qui s'occupe de recycler des déchets, c'est de la haute technologie, qui sont en train de réfléchir beaucoup plus loin pour retrouver des métaux rares. Je veux dire, on ne le sait pas. Et je pense que s'il y avait une pédagogie un peu en France de ce que font les entreprises, je veux dire que les gens seraient beaucoup plus motivés. Parce que c'est, à force de nous culpabiliser et de nous punir, on se dit, c'est plus la peine. À quoi ça sert? Et donc, je pense que c'est fondamental. Moi, je suis très bluffée, je ne savais pas que PAPREC avait effectivement des partenariats pour ça, et c'est absolument exceptionnel.
Corinne Lepage, de ce que vous avez entendu dans la table ronde tout à l'heure, qu'est-ce que, sur ces sujets, peut-on tout recycler? Quelle évolution dans le secteur du recyclage? Qu'est-ce qui vous paraît prioritaire?
Bah, je pense que pour le moment, on ne peut pas tout recycler, je pense, sous votre contrôle, mais l'objectif, c'est d'arriver à tout recycler. C'est-à-dire de ne rien perdre. Et ça, c'est un objectif économique, mais derrière, il faut bien comprendre que c'est du business. C'est pas seulement pour se faire plaisir sur le plan de l'écologie. Et je retiens de ce que dit Sophie de Manteau quelque chose qui me paraît important. C'est que c'est vrai que ce que nous vivons actuellement, si on a 40 degrés à Paris, c'est quand même pas tout à fait naturel, enfin pas normal, disons. On voit bien qu'on est rentré dans un cycle qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est quand même très angoissant. Expliquer aux gens qu'on a la capacité de faire, qu'on sait faire, qu'on peut faire, que le vrai sujet, c'est de savoir si on va savoir faire assez vite pour pouvoir réguler et ne pas aller vers des hausses de température qui seraient démesurées. C'est ça le sujet. Et je dirais que le fait de savoir faire et de pouvoir faire est quelque chose qui lutte contre l'anxiété, qui lutte contre l'angoisse. Donc ça me paraît quelque chose de très important d'expliquer aux gens qu'il y a des solutions et qu'elles sont mises en œuvre. Et qu'ils peuvent y participer et qu'ils peuvent même trouver leur propre manière de faire pour s'inscrire dans ces solutions, et que plus on sera nombreux à s'inscrire dans ces solutions, plus on a des chances d'y arriver.
Et je voudrais vous poser une question à toutes les deux.
Un petit mot de conclusion après, oui. Sophie, oui.
Non, une question toute petite, c'est que dans tout ce qui se dit, il y a, moi qui suis chef d'entreprise dans l'âme, il y a la déconsommation qui apparaît en trame. Et que c'est quand même inquiétant pour toutes ces entreprises qui doivent vendre, qui doivent se développer. On leur dit de créer de l'emploi, etc. Qu'en est-il vraiment? On est en train, y compris d'ailleurs, lorsqu'on ne doit pas changer son portable, c'est vrai, j'avais envie de le faire, je ne le fais pas. Comment vous voyez cette nécessaire décélération de la consommation?
Je crois qu'une partie de la réponse est dans ce que je disais tout à l'heure, c'est l'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire, c'est un changement de business model. Tu es une entreprise qui fabrique des téléphones. Tu vas en vendre moins. Tu fais quoi? Tu réfléchis, tu dis, je fais comment puisque je vais vendre moins de téléphones. Tu dis, je vais rendre un autre service. Ce service, je vais gagner ma vie en offrant des prestations toujours meilleures de téléphonie. Mais je ne vais plus vendre.
Je vais vendre plus cher, donc.
Je vais vendre plus cher, mais je ne vends pas exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas passer un contrat avec ton client, au terme duquel tu t'engages à lui mettre à disposition un téléphone qui sera toujours en état de fonctionnement, qui sera toujours adapté aux meilleures technologies possibles. Donc, quand tu vas fabriquer ton téléphone, tu vas le fabriquer non pas pour qu'il dure 3 ans, mais pour qu'il dure 10 ans.
On vend une prestation,
service. C'est exactement ça. C'est là où tu vas gagner ta vie. C'est parce que ton truc, ton produit sera de très bonne qualité, parce que c'est ton intérêt. Et donc, tu vas pouvoir le faire évoluer sans que ça te coûte une fortune, mais tu seras, en revanche, payé par la prestation de service que tu vas faire. C'est une autre manière de concevoir son business model. Et donc, en termes de produits consommés, oui, il y en a moins, puisqu'on reste sur le même produit, mais en termes de prestation de service, d'activité économique, tu n'as pas moins, tu peux même avoir beaucoup plus.
Un mot de conclusion, je vous félicite Sophie de Menton, présidente d'Éthique, d'avoir lancé ce débat qui au début rendait incrédule et on se rend compte que c'est un vrai sujet. Quel sujet ?
C'est une immense richesse, j'ai honte de conclure parce qu'il n'y a pas à conclure. Je vais au contraire vous demander, vous, de conclure. Est-ce que ça vous rend optimiste, cette diversification de votre groupe ? Et Corinne, est-ce qu'on pourra économiquement tenir le coup ? Même si y a moyen, effectivement, de vendre des prestations produits plus services, est-ce qu'on aura quand même ce qui est assez, pour moi, angoissant de parler indéfiniment de déconsommation, surtout qu'il y a des pays qui rêvent d'avoir le dixième de ce qu'on a. Et donc, voilà, c'est plutôt à vous deux que je demande de conclure sur ces sujets.
Alors, résolument optimiste, oui, tout à fait, parce que je pense qu'on est à une ère où effectivement tous les business models sont en train de changer. On est certainement sur du mieux consommer, mieux produire et incorporer l'économie circulaire au cœur de notre modèle économique et qui contribue à la décarbonation de l'économie aussi, qui contribue à la transition énergétique et à notre souveraineté énergétique. Donc c'est un changement pour moi de paradigme et de modèle. Et ayons confiance dans les industriels, comme le groupe Papreg, mais comme l'ensemble des industriels, pour pouvoir, dès lors qu'on a un cadre, je dirais, normatif qui change pas tous les matins, qui est prévisible, qui est clair et qui est lisible, nous on sait faire. Nous, on a les capacités pour investir. Nous, on y croit. Donc, on ne demande qu'à amplifier la dynamique.
Corinne Lepage, oui.
Alors, la question que tu poses est une vraie question. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour travailler quand même avec beaucoup notamment de PME, de ce qu'on appelle des start-up un peu inventives sur ces secteurs-là, je suis toujours fascinée par ce qu'ils sont capables de faire. Je trouve ça formidable. Et donc, je suis assez optimiste là-dessus. Je pense qu'on va vers des modèles qui vont être très différents. C'est tout. Et on va vivre différemment, parce qu'on n'aura pas le choix de faire autrement. Oui, les pays du Sud vont devoir, vont probablement consommer plus. Mais consommer quoi ? Et comment ? La question de la souveraineté alimentaire, par exemple, va redevenir un sujet, mais majeur, sur la table. On va assister très malheureusement et très probablement à des émeutes de la faim dans les mois qui viennent à cause de la situation ukrainienne jointe à ce qu'on est en train de vivre, qui ne concerne pas que la France. Donc, comment est-ce qu'on assure notre souveraineté alimentaire ? Comment est-ce qu'on produit suffisamment sans rendre les gens malades ? Parce qu'il y a aussi la dimension sanitaire qui est très importante. Ça va dire, par exemple, qu'à mon sens, il va y avoir beaucoup de gens qui vont revenir à la terre. Alors ensuite, il faut trouver le modèle économique qui permet aux gens qui sont des paysans, de vivre de leur travail. Mais c'est des paysans pas versus 19e siècle. C'est des paysans versus pas près que 21e siècle. C'est-à-dire qui travaillent avec la géolocalisation, qui sont tout à fait dans des...
Dans le numérique, quoi.
Oui, dans le numérique. Et puis dans des techniques, des technologies qui sont beaucoup plus fines que ce qu'on croit habituellement. C'est un autre monde.
Merci beaucoup.
Juste un tout petit mot. Si j'avais un conseil à donner à tous les politiques, c'est d'écouter et de faire de la pédagogie à tous les niveaux. Les gens ne savent pas. Pédagogie.
Très bien. Merci Sophie de Menton pour cet excellent sujet. On a bien compris que dans un monde toujours plus menacé par le pillage des ressources de notre planète, il est nécessaire d'agir dès maintenant afin de limiter le gaspillage. Tous ces invités sont revenus sur les gros concepts, économie circulaire, tri, recyclage, tout ce qu'il faut faire, et c'était de très beaux panels. Merci Sophie de Menton pour cette organisation.
Merci à vous
tous.
En tout
cas, moi, de mon point de vue, de tous ces débats, je dirais, il n'y a rien à jeter. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, au revoir.
L'avenir est dans nos poubelles. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, jeudi 16 juin 2022.